comme les transporteurs professionnels, assurez vos marchandises chez Suno Assurance, présente dans plus de 14 pays d'Afrique. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. C'est donc en direct du salon Vivatech et ça s'entend, hein, de la porte de Versailles à Paris que nous nous retrouvons aujourd'hui pour ce rendez-vous avec les acteurs de l'innovation technologique. Et dans ce secteur, l'un des domaines qui pourrait demain bouleverser la donne en matière de santé, de dépistage, de diagnostic et même de soins, ce domaine, c'est celui de l'intelligence artificielle. Traitement des données de santé, outils numériques qui ouvrent de nouvelles perspectives, mais ces ressources technologiques, si elles sont prometteuses, suscitent également des craintes face aux enjeux éthiques et également de l'inadaptation parfois du cadre juridique, des réserves face à de possibles dérives en matière de respect du consentement et même de la primauté de l'humain sur la machine. Alors même si beaucoup de patients l'ignorent, et nous allons le voir au cours de cette émission, cette intelligence artificielle au service de la santé ne se conjugue pas simplement au futur. Il existe déjà au travers d'applications concrètes, puisque des spécialités emploient ces nouveaux outils, radiologie, ophtalmologie, oncologie ou encore support de modélisation des infections émergentes. Et l'essor de ces technologies de pointe dans le secteur médical peut aussi avoir pour avantage d'apporter l'expertise dans des territoires privés d'accès aux soins, une dimension qui elle aussi se conjugue déjà au présent à la lumière de l'essor des projets liés à la santé numérique, à l'e-santé dans les pays du Sud. Priorité santé au salon Vivatech pour parler intelligence artificielle e-santé dans les pays du Sud avec nos invités. David Gruson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre du comité de direction de la chaire santé de Sciences Po, docteur en droit de la santé. Vous avez signé aux éditions de l'Observatoire « La machine, le médecin et moi ». Réflexion sur l'intelligence artificielle, application avec vous, Jean-Patrice Glaftides, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur de Data Valoris, une jeune société française spécialisée dans l'intelligence artificielle et les réseaux neuronaux. Vous allez tout nous expliquer dans quelques instants. Intelligence artificielle employée pour dépister des affections comme la rétinopathie diabétique. Nous serons tout à l'heure en ligne avec le professeur Ramin Tadayoni, chef de service à l'hôpital Lariboisière à Paris, professeur d'ophtalmologie à l'université Paris 7. Et puis à l'occasion de notre présence ici au pavillon Africa Tech, on donne la parole à des entrepreneurs, jeunes entrepreneurs qui développent des projets dans ce secteur médical. Chef d'entreprise au féminin avec vous, Bola Bardet, bonjour.
Bonjour.
Vous avez créé l'entreprise béninoise Soussou, plateforme d'assurance maladie sur abonnement. Et puis avec nous également, Joseph Kenom, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le gérant d'Ewan Sénégal, je l'ai bien prononcé.
Ewan,
je l'ai mis. Prononcer, ça va. Vous proposez donc un carnet de santé international, carnet numérique, dossier patient disponible en temps réel, c'est bien ça?
C'est ça.
On en parlera tout à l'heure.
Priorité santé sur RFI.
Alors, lorsque l'on parle d'intelligence artificielle, l'une des grandes difficultés, on peut dire même que c'est l'essentiel, c'est de s'attacher à rendre cette question accessible au plus grand nombre, bien se faire comprendre, hein, c'est toujours le sujet, l'objet de notre émission. Et cela, David Gruson, signifie commencer par définir ce que recouvre ce terme d'intelligence artificielle, dans notre cas, application au secteur de la santé. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, le mot intelligence artificielle, c'est une traduction de l'américain, peut-être un peu impropre. Si on voulait être plus rigoureux, il vaudrait mieux parler de programmes informatiques apprenants, c'est-à-dire des programmes qui sont capables de reproduire des modes de raisonnement humains, et puis après qu'on essaye d'adapter à des secteurs d'application. Là, ici, le champ de la santé, avec une série de techniques qui sont mises en œuvre, avec des degrés d'opérationnalité diverses, on parlera tout à l'heure du diabète. C'est un exemple d'illustration de la technique la plus au point aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle la reconnaissance d'image par apprentissage machine. Prenez une image, un cliché, vous entraînez un programme à dire s'il y a ou pas une pathologie.
Et est-ce que tous ces secteurs, tous ces propositions d'intelligence artificielle sont évolutives ou il y en a qui sont figées? Je veux dire par là, est-ce qu'elles intègrent toutes au fur et à mesure les nouvelles données?
Oui, alors en fait, vous avez plusieurs catégories. En fait, l'intelligence artificielle commence par ce qu'on appelle un algorithme, c'est-à-dire un programme qui est capable de proposer des orientations de décision ou des décisions à partir des données qu'il traite. Puis là, vous avez le cran d'après, qui est le machine learning, c'est-à-dire le programme apprenant, qui, au bout d'un certain temps de traitement de données, cette intelligence artificielle apprenante va pouvoir produire une version améliorée du programme pour atteindre les objectifs initiaux. Et puis après, vous avez des formules encore plus évoluées. Je pense qu'on parlera tout à l'heure de deep learning, de réseaux de neurones, et qui permettent d'aller plus loin à la base de tout ça, des algorithmes et de la collecte massive de données de santé.
Vous me permettez d'aller vers les transitions avec tous ces anglicismes, hein, même si on va éviter d'employer trop de termes trop techniques pour les non-initiés, c'est toujours difficile de comprendre, c'est assez opaque. Deep learning, machine learning, si je ne me trompe pas, c'est neurones artificiels. Je me tourne tout à fait logiquement vers vous, Jean-Patrice Glavkides. Alors, votre société, on va essayer de décrire ce que vous faites précisément, ces définitions, l'illustration concrète avec vous autour de cette table, puisque c'est aujourd'hui le cœur de votre métier. Vous proposez divers services, diverses ressources à des entreprises de santé. Essayez de nous expliquer justement ces différentes pistes pour acquérir, pour posséder, s'approprier cette intelligence artificielle dans le secteur de la santé.
Alors, effectivement, nous proposons un accompagnement des différentes sociétés, que ce soit dans la santé ou autre, qui ont pour objectif d'intégrer de l'intelligence artificielle dans leur processus métier ou dans la capacité de faire de la détection de pathologie ou autre. Et dans ces conditions-là, on va discuter avec des experts du métier et mettre en place, en fait, un processus d'idéation, en fait, de faire en sorte de faire ressortir quel est l'objectif de ces experts. Est-ce que l'objectif, c'est de détecter à partir d'images un cancer? Est-ce que ça va être de détecter du diabète en fonction de même une photo d'un œil, et ainsi de suite. Donc on va déterminer quel est l'objectif, et à partir de cet objectif, on va monter une plateforme d'intelligence artificielle. Alors on va parler de plus en plus d'intelligence augmentée, parce qu'aujourd'hui, intelligence est un peu galvaudée, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, et on va permettre d'accompagner le médecin dans des diagnostics, dans des prescriptions et autres possibilités liées à la santé.
Ces ressources, vous les proposez exclusivement, Jean-Patrice Glavkides, dans le secteur de la santé?
Alors, nous, on travaille sur l'intelligence artificielle au sens général du terme. Donc, on a effectivement fait un focus sur la santé, mais il existe d'autres secteurs qui sont très intéressés, parce que ces algorithmes, comme on l'a dit, s'appliquent à tout secteur.
Pour essayer de comprendre comment ça fonctionne concrètement, c'est quoi? C'est par exemple un labo, un centre de radiologie qui vous appelle, qui dit « je veux passer à l'intelligence artificielle, amenez-moi votre savoir-faire ».
Alors aujourd'hui, dans les quelques exemples que l'on a, il y a deux catégories de personnes qui s'adressent à nous. Ça peut être donc un CHU ou un hôpital qui veut mettre en place. Alors nous, on a déjà travaillé avec l'Institut Gustave Roussy, par exemple, sur un challenge où on va mettre
en cancérologie.
C'était une autre détection, mais bon, ça pouvait aussi aboutir sur la cancérologie. Et la question était à partir de radiologues, donc c'était un consortium de radiologues qui a fourni un certain nombre de radios pour détecter certaines formes de pathologies. C'était très précis, c'était des consortiums, mais ça venait d'un hôpital. Après, on a d'autres, et c'est un peu le cas sur Vivatech. On est hébergé par Sanofi, qui a des objectifs en fait de mise en place d'intelligence artificielle pour accompagner les patients dans des démarches. Typiquement, on est là sur deux sujets intéressants, qui sont la déidentification des données patients. On va parler d'éthique. Donc, comment faire en sorte que les données restent anonymes, qu'on ne puisse pas retrouver le patient qui a prêté ses données quelque part pour qu'on puisse faire des recherches, de la
sécurisation
recherche.
Sécurisation des données personnelles.
Exactement. Et le deuxième sujet, c'est diminuer l'errance pour les maladies rares. Quelqu'un qui a une maladie rare aujourd'hui va mettre jusqu'à 6 ans pour qu'on détecte ou qu'on identifie sa maladie. C'est quelque chose qui est inacceptable, en particulier pour le patient, mais de manière générale pour la société, c'est ce cursus est anormal.
Ça veut dire que là, on peut croiser des données qui vont permettre d'aller beaucoup plus vite dans des critères de diagnostic.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'il va y avoir une intelligence augmentée qui va être à côté du médecin traitant, qui va lui permettre de poser des questions et d'identifier plus rapidement, en tout cas, des pathologies qui pour lui seraient standards. Un médecin qui ne voit que des grippes, il ne pourra pas voir une maladie qui a les mêmes symptômes.
Si on veut visualiser ce que vous faites, vous livrez quoi? Vous livrez une connexion Internet? Vous livrez un disque dur? Je suis peut-être un peu de l'ancien temps, mais je pose quand même ces questions parce que moi je comprends pas tout. Ou vous livrez des réunions? Vous livrez du travail de consultant? Quoi exactement?
Alors là, ce que l'on livre, en tout cas dans ce cas-là, on va livrer une plateforme dans laquelle, disons une plateforme web, un site web dans lequel le médecin va se connecter, va mettre les symptômes et le système va proposer, attention, il y a peut-être ce diagnostic-là, merci de faire les examens complémentaires suivis.
avec justement un relationnel aussi qui est important. Est-ce que vous arrivez face à des publics, par exemple des médecins, dans des hôpitaux, des gens qui n'ont aucune connaissance dans ce monde du digital, dans ce monde du numérique, qui ont même des réticences, des peurs en vous voyant arriver, un peu savant fou? Il faut aussi les convaincre sur ce domaine?
Alors bien sûr, c'est-à-dire qu'on va se retrouver entre ceux qui en ont peur, ceux qui en attendent quelque chose de miraculeux, parce qu'il ne faut pas l'oublier, les gens ont tendance à penser que c'est miraculeux. Alors effectivement, ça fait des choses qui nous semblent parfois même miraculeuses, il n'y a rien, aucun miracle derrière tout cela. Et effectivement, comme on ne sait pas trop l'expliquer pourquoi ça marche, ça amplifie cet effet miraculeux, et on a des utilisateurs qui n'y connaissent strictement rien, mais qui ont une vraie problématique à régler, et c'est là où on les accompagne en fait.
Alors il y a du très rationnel, hein, comme on vient de le comprendre. Tout à l'heure, on va encore avoir un autre exemple avec une pathologie bien particulière, et puis il y a une partie, on l'a compris, assez fantasmatique. On touche à beaucoup de choses, et on touche aussi, on l'a pointé avec la sécurisation des données personnelles, à des questions éthique, le droit à l'anonymat, bien sûr, c'est le serment d'Hippocrate, c'est le secret, c'est l'essence de la médecine, élément très sensible dans ce domaine. David Gruzon, c'est forcément comment définir un cadre juridique quand un secteur est en construction. On suit le mouvement, on anticipe, on fait comment?
Vous avez compris, vous avez tout à fait mis le doigt sur l'enjeu essentiel. On est face à un mouvement d'innovation majeure. C'est ce que nous disons d'ailleurs dans le rapport du Comité consultatif national d'éthique français qui prépare la révision prochaine de la loi de bioéthique. Le premier problème éthique, le premier risque éthique, ce serait d'avoir une position trop fermée, trop bloquée face à l'innovation. Il ne faut pas se couper de ce potentiel d'innovation pour améliorer le système de santé français, mais aussi ouvrir des perspectives dans les pays en développement. On en aura l'illustration avec ces projets africains tout à l'heure. Donc il ne faut pas se fermer à l'innovation. Néanmoins, s'ouvrir à l'innovation, ça ne veut pas dire être aveugle devant les risques éthiques qui sont associés à ce développement de l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'on porte l'idée d'une régulation positive, essayer d'accompagner l'incubation de l'innovation et essayer de définir des outils qui d'ailleurs passent pas tous forcément par le droit, dans un contexte où il faut bien rappeler que la France et l'Union européenne ont déjà un des cadres juridiques les plus protecteurs au monde sur les données de santé, avec l'entrée en vigueur de ce que l'on appelle le Règlement général sur la protection des données, le RGPD, en 2018.
Donc, oui, mais malgré tout, est-ce qu'on a une assurance, même si l'Europe a ce cadre légal et juridique, on sait très bien qu'on est aussi dans l'immatériel, que ce droit s'applique sur des choses qui sont immatérielles?
Et on arrive dans le cas pratique. C'est-à-dire qu'il y a, le RGPD est une avancée, incontestablement. Néanmoins, il laisse certaines questions sans réponse a priori, parce que le droit ne peut pas entrer dans tous les détails. Et il a peut-être un défaut, c'est celui de mettre toutes les données sur le même plan. Or, on voit bien que dans le champ de la santé, toutes les données ne se valent pas. Ce qu'il y a dans mon iPhone ne vaut pas ce qu'il y a dans mon dossier médical, qui ne vaut pas mon génome. C'est pour ça qu'il y a un intérêt à construire des cadres sécurisés de partage des données sous égide des pouvoirs publics. C'est le but de ce qu'on appelle le Health Data Hub, la plateforme sécurisée de données de santé que le gouvernement français est en train de constituer, qui permettra un partage beaucoup plus large de l'essentiel des données de santé. Et puis par ailleurs,
ces données, c'est pas tout à fait, ça n'a rien à voir en fait avec le dossier médical partagé.
Les deux sont connexes mais distincts.
Il y en a un qui alimente l'autre.
C'est ça. Le dossier médical partagé, si vous voulez, c'est la structure qui permettra de regrouper numériquement toutes les données de santé d'un patient déterminé.
C'est la coquille.
Exactement. Et nos dossiers médicaux partagés, personnels, viendront, après la déidentification que vous évoquiez tout à l'heure, alimenter cette plateforme nationale de données de santé qui permettra de faire d'autres choses. Soit du pilotage épidémiologique, repérer des infections, décider d'orientation de mesures de prévention ou de santé publique, et aussi entraîner des algorithmes pour que la France soit à l'avant-scène du développement de l'innovation dans l'IA en santé. Et il faut construire un cadre éthique avec des principes de régulation qui viendront appuyer ces outils de partage des données.
Ça se fait déjà en France, par exemple, avec le bulletin épidémiologique. C'est ce genre de données qu'on va retrouver dans cette grande plateforme commune.
C'est ça, mais sur une échelle plus profonde et avec la capacité à aller beaucoup plus loin dans la performance de santé publique pour essayer de mettre un terme à une série de situations qui aujourd'hui sont pas acceptables dans lesquelles l'efficacité et l'efficience du système. J'étais directeur général du CHU de La Réunion. On avait mis en exergue une problématique majeure sur l'insuffisance rénale chronique concernant un offreur de soins à La Réunion qui est en cours de traitement actuellement. Mais vous voyez, ce type de situation-là aurait pu ou être dû repérer avec plus de pilotage par les données de santé.
On peut voir une anomalie, on peut même, à la clé parfois, ce que vous soulignez aussi dans votre livre, David Gruzon, éviter certains scandales sanitaires, parce qu'on va dire que là, il y a quelque chose qui cloche. Au niveau quantitatif, ça ne va pas.
Exactement. Je prenais cet exemple local, mais on peut aussi peut-être peut-être avoir le raisonnement alors a posteriori avec ce qui s'est passé dans le champ du Mediator. On voit bien que on parlait de l'industrie pharmaceutique tout à l'heure, les choses ont évolué, des lois ont été
prises. Alors juste pour rappeler le champ du Mediator, un scandale sanitaire avec un médicament qui était au départ qui a été employé pour un autre usage et puis qui a eu des répercussions au niveau de la santé cardiaque tout à fait dramatiques.
Exactement. Et donc du coup, il y a toute une technique autour de la notion de pharmacovigilance, la sécurité du médicament. Et là, le traitement massif de données permettra de nous aider pour faire progresser aussi le secteur pharma. Il y a des travaux importants en cours. En amont de la mise sur le marché des médicaments, on va développer des essais en essayant d'améliorer le plus possible par des données, c'est-à-dire ce qu'on appelle des essais in silico, grâce à l'intelligence artificielle, d'aller le plus tard possible sur les tests humains. Et puis après, une fois que le médicament aura été mis sur le marché, avoir des données qui permettront d'assurer sa sécurité au fil du temps, voire améliorer les produits de santé, médicaments et dispositifs médicaux.
Alors on va citer d'autres exemples, on va revenir sur une certaine part fantasmatique, parce que si quand on parle d'intelligence artificielle, il y a toute une littérature de science-fiction qui a fait un petit peu peur dans les choses. Donc on va y revenir, mais vous faites référence dans votre livre « La machine, le médecin et moi » David Bruzon à une illustration très concrète. Cette application particulière, c'est le diagnostic précoce de la rétinopathie diabétique. Et pour la première fois dans l'histoire, l'Agence américaine du médicament, la FDA, a autorisé une intelligence artificielle à poser un diagnostic sans la supervision d'un médecin. Nous sommes en ligne avec le professeur Ramin Tadayoni, bonjour.
Bonjour madame.
Professeur d'ophtalmologie à l'Université Paris 7, chef de service à l'hôpital La Riboisière, toujours à Paris. Professeur Tadayoni, pour bien comprendre, d'abord, on parle d'un cas particulier, d'une maladie en particulier, il s'agit de la rétinopathie diabétique. De quoi s'agit-il ?
La rétinopathie diabétique est la conséquence du diabète au niveau de la rétine, qui est le tissu neurosensoriel qui permet à l'œil de voir. C'est la première cause de cécité dans la population active en France et c'est responsable de 5% des cécités dans le monde.
Donc c'est une maladie qui est, on va dire, assez fréquente. Jusque-là, professeur Tadayoni, sur quel examen reposait le diagnostic de cette maladie ?
Alors il faut distinguer dépistage et diagnostic. Dans la rétinopathie diabétique, pendant longtemps, la maladie n'a aucun signe, n'a pas de conséquences sur la vision des patients. C'est à ce moment-là qu'il faut le dépister. Puis on va suivre et au moment voulu appliquer un traitement. Le suivi et décision du traitement, c'est le diagnostic. Donc jusque-là, le dépistage, on va déjà commencer par cela, repose sur l'examen du fond d'œil, ou mieux, par des photos du fond d'œil qui sont interprétées par des médecins, souvent à distance, parfois juste sur place, et un résultat est donné qui décide justement de la suite qu'il faut donner au suivi du patient.
Alors là, on était donc sur le dépistage. Maintenant, si on est sur le diagnostic ?
Alors le diagnostic se fait toujours par un médecin, avec des examens beaucoup plus sophistiqués, pour décider s'il faut simplement continuer à suivre le patient, ou si toutefois il faut appliquer déjà un traitement pour prévenir la baisse de vision.
Alors là, c'était les deux procédures, on va dire, traditionnelles. Maintenant, oui. Si on passe à un diagnostic ou une procédure par le biais de l'intelligence artificielle, professeur Tadayoni, qu'est-ce que ça change ?
Alors, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, ne s'applique qu'au dépistage. Il faut voir que dans le dépistage, c'est comme un radar de vitesse. Juste, il indique si on a dépassé une limite. Le diagnostic s'apparente plus à une conduite automobile automatisée. Donc, c'est beaucoup plus sophistiqué. Aujourd'hui, ce qui existe avec l'intelligence artificielle, c'est le dépistage. La majorité des patients qu'on dépiste, à qui on prend des photos du fond d'œil, heureusement n'ont rien. Donc le système est juste capable de remplacer le premier médecin qui regarde les photos pour dire il y a quelque chose ou il n'y a rien, par un système expert qui va simplement séparer tous ceux qui n'ont rien et leur répondre déjà vous n'avez rien, revenez dans un an pour de nouvelles photos, et ceux qui ont quelque chose et les adresser à un médecin.
Et d'où viennent justement les images collectées qui servent de référence pour dire en quelque sorte aux patients, revenez l'année prochaine, il faut pouvoir comparer avec d'autres images, d'œil sain ou d'œil malade. Justement, on dispose de quels matériaux ?
Alors, une fois que le système est réglé, il n'a plus besoin d'images de référence. Par contre, pour entraîner le système, effectivement, des dizaines de milliers d'images ont été fourni avec le bon diagnostic au système expert, et le système intelligent, en quelque sorte, a appris à reconnaître ce qui est malade de ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, on a simplement besoin de recueillir l'image du patient, et le système qui est déjà entraîné tel un humain qu'on aurait entraîné peut dire normal ou anormal.
Alors vous dites aujourd'hui on peut faire cela, mais est-ce que cette technologie aujourd'hui, professeur Ramin Tadayouni, est-ce que cette technologie est employée, utilisée en France ?
Alors la technologie n'est pas employée en France, par contre la technologie a été lancée pour la première fois il y a 2 jours par un consortium qui incluait notre service mais aussi beaucoup d'autres ainsi que des partenaires industriels français à la Société française d'ophtalmologie. Donc elle est désormais marquée CE, nécessite quelques autorisations supplémentaires avant d'être utilisée de manière quotidienne.
Et elle est déjà accessible aux États-Unis ?
Des systèmes équivalents ont déjà eu l'autorisation de mise sur le marché aux États-Unis.
Alors tout ça, ça peut paraître assez abstrait, même si vous en avez tout de même donné une description concrète avec justement cette histoire de voiture, de vitesse automatique, ça permet de visualiser les choses. Mais qu'est-ce que c'est les avantages de ce type de procédure de diagnostic par intelligence artificielle par rapport à du traditionnel ?
Alors le problème est assez simple, c'est qu'aujourd'hui, par exemple en France, 1 million de patients sont atteints. S'ils ont ne serait-ce qu'une photo par an, donc dans les stades les plus simples, donc ça fait 1 million d'examens à interpréter. Il y a de moins en moins d'ophtalmologistes, de moins en moins de gens qui sont prêts à se mettre derrière un ordinateur et lire les images. Le système triant déjà la majorité des patients qui n'ont rien permet aux médecins de se concentrer sur ceux qui ont quelque chose et de faire un meilleur travail en termes de suivi de ces patients.
Donc on a une meilleure prévention. Est-ce que si on se projetait dans l'avenir ou sous d'autres cieux, on pourrait imaginer aussi que ce type de technologie, ça pourrait permettre à des pays, je pense en particulier aux pays du Sud, où là encore l'offre en ophtalmo est encore moins importante, eh bien d'avoir un meilleur dépistage, surtout pour ce type de maladies comme la rétinopathie diabétique qui est assez fréquente, je pense en particulier avec l'essor des maladies non transmissibles dans les pays du Sud.
Vous avez absolument raison. Dans les pays dans lesquels il n'y a pas assez d'ophtalmologistes, il n'y a pas de dépistage. Or, quand la maladie est prise en charge trop tardivement, nous n'avons pas toujours les moyens de préserver la vision des patients. Donc la clé est quand même le dépistage à temps. Et donc ce système peut résoudre le problème de manque d'ophtalmologistes à un coût très raisonnable comparé à la formation d'un médecin dont le métier serait uniquement de dire c'est normal ou anormal. Le problème du diagnostic et du suivi du patient est un problème à part pour qui les spécialistes pourraient se concentrer.
Et en fait, ça fait un démenti à ceux qui diraient finalement toute cette haute technologie, ça éloigne encore des populations défavorisées des soins. Dans ce cas précis, c'est plutôt l'inverse.
Exactement. C'est un exemple dans lequel, en fait, ça permet de diffuser l'expertise et au lieu de séparer les patients défavorisés du meilleur standard, les rapproche et leur rend disponible ce meilleur standard. C'est quand même une utilisation, cette fois-ci, intelligente d'une technologie.
Justement, quand on parle d'intelligence artificielle, ça tombe bien. Merci infiniment, professeur Ramin Tadayouni, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur d'ophtalmologie à l'Université Paris 7, également chef de service à l'hôpital Lariboisière à Paris. Et nous sommes toujours en direct du salon Vivatech, porte de Versailles à Paris. J'aimerais justement vous faire réagir sur ce dernier point abordé avec le professeur Tadayouni, expertise pour les pays du Sud qui s'appuie sur la technologie numérique. Je vous ai vu réagir, Bola Bardet, pendant qu'on écoutait cette interview. On reviendra tout à l'heure sur le cœur de votre travail, votre activité au sein de l'entreprise Soussou. Mais déjà, est-ce que au quotidien, au Bénin, pays où vous travaillez, vous observez certains apports des nouvelles technologies en termes d'accès à la santé ?
Tout à fait. Je pense que l'intelligence artificielle notamment sera d'une grande aide dans la prise en charge des maladies chroniques, le diabète, l'hypertension. Comme vous le savez, on assiste à un boom extraordinaire des maladies chroniques dans nos pays. On a eu 88% d'augmentation du diabète dans les 15 dernières années, ce qui est énorme. L'hypertension, 67%. Et je pense que l'intelligence artificielle pourra notamment aider à une meilleure prise en charge des patients, par exemple à travers une traçabilité de leurs données médicales et une prévention de l'aggravation de la maladie. C'est un usage que je vois. Et l'autre bénéfice de la technologie dans le domaine médical en Afrique et au Bénin, par exemple, c'est la télémédecine. La télémédecine qui aide, notamment dans les zones où on a un problème d'accès à des spécialistes de qualité.
Zones rurales reculées.
On permet aux personnes vivant dans ces régions-là d'accéder quand même à à un réseau de médecins de qualité à travers la télémédecine.
On a déjà des illustrations e-santé, par exemple en dermatologie. On va pouvoir appeler un chef de service dans la capitale, lui montrer une lésion, envoyer une photo et demander une expertise pour qu'il y ait une application là, par un personnel communautaire ou un personnel infirmier qui va pouvoir relayer l'expertise du spécialiste, parce qu'évidemment, un grand nombre de systèmes de santé des pays du Sud manquent cruellement de formation pour des spécialistes.
Exactement. Et ça pourrait aussi faire l'objet d'un partenariat Nord-Sud. Le dernier aspect que je vois, mais sans être une spécialiste de l'intelligence artificielle, c'est également dans le domaine où Soussou opère, c'est dans la collecte et l'amélioration des données actuariales en Afrique, qui est un gros problème pour les assureurs et qui les empêche d'avoir une meilleure pénétration du marché de l'assurance en Afrique.
Ça veut dire qu'on n'a pas de données épidémiologiques, il manque d'études nationales, d'études régionales sur certaines grandes pathologies, et ça permet de recenser en fait à grande échelle.
D'avoir une meilleure traçabilité des données épidémiologiques et actuariales sur les patients et de pouvoir mieux accéder à leurs besoins finalement en matière de santé et offrir des primes qui leur sont abordables.
Même question que je vous adresse, Joseph Kenom. Tout à l'heure, on parlait justement recueillir ces infos de santé. C'est directement votre travail, votre secteur d'activité. Alors, vous travaillez au Sénégal et au Mali. Dans ces deux pays, on peut encore insister sur le milieu rural. Est-ce que l'accès aux soins, on sait, il est compliqué dans ces régions. Est-ce que l'e-santé peut ouvrir de nouvelles perspectives, voire même, est-ce que c'est déjà un recours ?
Oui, en fait, la e-santé actuellement au Sénégal, par exemple, nous sommes basés au Sénégal, donc nous avons déployé au Mali avec Ion Mali. Donc la problématique que nous avons recensée, notamment par exemple au nord du Sénégal, c'est qu'aujourd'hui, je vais donner l'exemple de l'évacuation par exemple. Donc le gouvernement avait remarqué que le patient arrivait en même temps que le dossier. Et donc les médecins perdaient énormément de temps à lire le dossier, préparer le bloc, etc.
En cas d'évacuation sanitaire, urgence médicale, il faut que le patient aille très vite vers une plus grande structure de santé pour accéder par exemple à un bloc opératoire.
C'est ça.
Et ça arrivait trop tard.
C'est-à-dire que le dossier arrivait en même temps que le patient. Donc ce que le ministère nous a demandé, c'est le ministère de la Santé, c'est tout simplement de digitaliser le dossier médical du patient. Donc dès qu'il quitte, parce qu'en fait au niveau du nord, donc entre l'hôpital régional de Saint-Louis et les postes et les centres de santé, il y a à peu près 200 km de distance. Donc dès que le SAMU récupère le malade pour partir, donc le dossier est automatiquement envoyé au médecin qui est au niveau de l'hôpital régional. Donc il reçoit un SMS pour lui dire que le dossier est là. Donc là, il a le temps de se concentrer et de préparer le bloc et tout. Donc dès que le patient arrive, donc la prise en charge est immédiate.
Anticiper pour une meilleure prise en charge. On va poursuivre notre échange, toujours au salon Vivatech. David Gruson, ce que l'on souligne, beaucoup insiste sur ce point. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans votre titre, puisqu'il y a ce fameux « médecin et moi », c'est que la machine ne remplace pas le médecin. Ça, c'est un point essentiel, parce que beaucoup de gens imaginent finalement qu'ils vont arriver dans une espèce de salle, il va y avoir des bip-bip, des lumières, et qu'il n'y aura plus d'humain. L'humain, il reste essentiel.
Oui, vous avez raison, il faut se départir un peu de préjugés de science-fiction qu'on a un peu tous dans la tête. Les cas d'usage très concrets qui ont été exposés montrent que précisément, c'est l'interaction homme-machine qu'il faut essayer de développer. Ce que nous portons fortement avec le comité d'éthique, et ça veut dire aussi imaginer aussi de nouveaux modes d'interaction entre la machine, le médecin et le patient à l'heure de l'IA. C'est ce que nous proposons par exemple s'agissant du devoir d'information du médecin à son patient pour que désormais, on propose de l'insérer dans la prochaine loi bioéthique, le médecin soit obligé d'informer son patient de ce que la thérapeutique proposée est assise en réalité sur une recommandation d'intelligence artificielle. Approfondir l'information pour préserver aussi l'autonomie de décision du médecin, éviter ce risque d'une délégation de la décision médicale à l'IA, et l'autonomie de consentement du patient, pour que le patient soit éclairé de ce qu'on lui propose est en partie le fruit de recommandations d'intelligence artificielle.
On va y revenir, mais moi j'ai une question un petit peu de sceptique à vous poser. On sait qu'aujourd'hui en France, dans beaucoup de sociétés, l'heure est à l'économie, aux restrictions budgétaires. Vous dites l'humain, il sera toujours là, l'équipe médicale, elle sera toujours là. Il pourrait quand même y avoir une tentation financière de certains acteurs, de certains décideurs, de certains, certaines personnes qui, on va dire, qui tiennent les cordons de la bourse, qui voudraient faire des économies de personnel, et puis finalement, eh bien, un diagnostic serait rendu sans cet être humain. Alors là, on l'a dit, il y a le comité d'éthique qui veille au grain, il y a des garde-fous qui sont mis en place, mais quand même, ces craintes, elles sont réelles.
Oui, mais alors nous avons publié au mois de janvier dernier une étude avec l'Institut Montaigne, qui est en fait une étude d'évaluation de ces impacts RH dans le champ de la santé.
Impact ressources humaines, on parle sans crible,
oui.
Parce que sinon on ne va pas s'y retrouver.
Vous avez raison, avec en gros ce mythe que l'IA pourrait se remplacer, pourrait faire disparaître les radiologues et se substituer aux soignants. En fait, on analyse exactement le contraire. On pense qu'il va y avoir des gains de qualité de travail pour les médecins et les soignants, et en sens inverse, des gains d'efficience possibles sur ce qu'on appelle les fonctions support, les fonctions d'administration, de gestion, de logistique, tout autour de
la santé, ce n'est pas que du soin.
Exactement. Tout ce qui ne concerne pas la relation entre le soignant et le soigné. Et là, le potentiel d'automatisation est important. On a estimé avec l'Institut Montaigne une fourchette basse à 40 000 ETP pour le système de santé français, une fourchette haute à 80 000 équivalents temps plein, sur un total d'1 200 000 emplois. Alors, ça paraît beaucoup, mais il faut le mettre en perspective de cet emploi total. Et puis, par ailleurs, se dire qu'on est encore dans le moment où on peut, si on prend des orientations fortes, aller vers des programmes d'adaptation des emplois et des compétences pour essayer de faire en sorte que ces métiers, par exemple, on dit que 60% des tâches d'une secrétaire médicale aujourd'hui peuvent être automatisées. Et donc il faut emmener ces profils de poste vers de nouvelles évolutions. Demain, on pense que des solutions de brancardage semi-automatisées se développeront. Donc il faut aller vers une requalification de ces emplois, plus dans l'accompagnement, la gestion de flux, pour essayer d'aller plus loin aussi dans l'information du patient, lui donner des données, par exemple, sur son séjour, la partie qu'est-ce qui va se passer pour la suite de son séjour à l'hôpital. On peut aller plus loin et requalifier des emplois dont certaines activités hors du soin peuvent être automatisées.
Alors justement, pour ce qui est du fantasme, de la lutte contre ce fantasme, ça fait même peut-être partie du métier de l'Académie nationale de médecine, dans un communiqué qui a été publié il y a quelques jours seulement, met en garde contre ces fameux fantasmes qui peuvent circuler au sujet de l'intelligence artificielle. Jean-Patrice Glafkides, vous êtes un entrepreneur de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'une partie de votre travail, c'est finalement de convaincre qu'il n'y a pas justement, que peut-être que ces risques existent, mais que vous faites tout justement pour que ces craintes ne deviennent pas réalité ?
Alors, tout à fait. En fait, le but, on a un gros travail d'apprentissage, de discussion avec les différents intervenants pour essayer de faire comprendre ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire, et de mettre en œuvre pour que ce soit efficace.
Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des structures qui vous demandent de faire des choses que vous refusez ? Est-ce qu'on a déjà touché ce point ? Des gens qui veulent aller un petit peu trop loin déjà, ou ça n'existe pas encore ?
Alors, pour l'instant, on n'a pas besoin de refuser dans le sens où la technologie n'est pas là pour arriver à ce stade-là. On en reparlera dans 10 ans. Mais en tout cas, aujourd'hui, au stade où on en est sur ce qu'on appelle des intelligences artificielles faibles. Ça reste des algorithmes assez primaires. Alors effectivement, ils font des choses qui sont surprenantes, mais qui sont assez primaires. Voilà, le fantasme, il existe sur ce que l'on va faire, disons, ce qu'on pourrait en faire. Le fantasme, il existe aussi sur ce que les gens ont tendance à oublier, qu'il y a un encadrement par la loi de beaucoup de choses. Donc il est très difficile de sortir du cadre de la loi qui impose en fait une utilisation de l'intelligence artificielle au même titre que n'importe quel autre type d'algorithme pour ne pas empiéter sur les propriétés, disons, la propriété intellectuelle, les lois, la bioéthique, tout ce qui est RGPD, tout ça. On est très encadré. Le problème, le fantasme peut venir d'autres pays. Mais là, c'est un autre sujet. Mais il y a des pays qui n'ont pas du tout cet encadrement-là et qui n'hésiteront pas à aller beaucoup plus loin. Il faut les surveiller et nous adapter en conséquence.
Et d'ailleurs, on n'est pas forcément toujours dans le fantasme, on est peut-être même dans la vraie crainte. Un exemple que j'ai trouvé, que je trouve assez pertinent dans votre livre, ce sont quand des données médicales compulsées permettent d'anticiper la mortalité des patients. On va dire, en gros, la fameuse « docteur, combien de temps me reste-t-il » Eh bien, est-ce que c'est à une machine de calculer ça ? Est-ce que c'est à une machine de le dire ? Impératif, nécessité de beaucoup de prudence, ces modèles prédictifs. Attention que jamais une petite voix synthétique ne nous dise « Madame, arrêtez les traitements parce que de toute façon, votre cas, eh bien, c'est peine perdue. »
Vous avez raison, c'est là où on arrive sur la notion essentielle pour bien vivre avec l'IA, avec l'intelligence artificielle dans le champ de la santé, c'est cette notion de garantie humaine. Il faut que le recours à ces à ces programmes algorithmiques soit accompagné d'une régulation humaine, du médecin, mais aussi d'autres acteurs, pour essayer par exemple de suivre l'évolution d'un programme d'intelligence artificielle au fil du temps, au fil de sa transformation. On parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle apprenante. On propose la mise en place par exemple de collèges de garantie humaine. Alors il ne faut pas faire des instances pour faire des instances, mais à une échelle pertinente pour par exemple aller prendre des dossiers tous les 2 ou 3 mois examinés par intelligence artificielle sur des cas très concrets pour regarder si l'intelligence artificielle a donné des réponses médicalement pertinentes et éthiquement responsables, et surtout s'assurer que ce programme reste éthique au fil de son évolution et au fil de son apprentissage. Et là, c'est quelque chose que les professionnels de santé sont bien habitués à faire, c'est ce qu'on appelle des revues de cas pluridisciplinaires. Vous allez comme ça réexaminer des situations de patients. De la même manière, on parlait tout à l'heure du potentiel de la télémédecine, notamment dans les pays du Sud. La télémédecine peut aussi être utilisée comme vecteur de garantie humaine de l'intelligence artificielle. Très concrètement, vous voyez, je suis médecin de première ligne, le programme d'IA me préconise un traitement avec lequel je ne suis pas d'accord, ou sur lequel j'ai un doute par rapport à la situation de ce cas clinique déterminé. Et ben, j'appelle le professeur Klafkides, je lui demande son deuxième avis pour reprendre du recul critique et éviter cet effet de délégation de la décision médicale, cet effet finalement de perte d'autonomie de décision. C'est ça le point clé, garder de l'autonomie de décision.
Parce qu'en plus, tout à l'heure on parlait de ces algorithmes, des calculs avec une notion de masse, et la grande question entre l'intérêt collectif et le sujet qui est complètement singulier, parce qu'on a parlé aussi par exemple de rationalité économique, c'est dans l'air du temps. Quand est-ce qu'on va dire un traitement finalement n'est pas rationnel pour vous, parce que vous n'avez finalement pas assez de chances de survie, de guérison, de rémission? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque justement de voir le nombre l'emporter sur l'individu? C'est une grande question.
Oui, et c'est un des effets un peu paradoxaux de l'intelligence artificielle en santé, qui peut amener d'un côté plus de personnalisation des traitements, mais de l'autre une certaine confrontation entre l'intérêt de la personne et l'intérêt du collectif, parce que l'algorithme va traiter des données de santé en grand nombre et proposer des orientations qui pourront être bonnes pour le plus grand nombre, mais au prix d'une certaine minoration de la prise en compte de l'intérêt d'une personne. Exemple très concret, ce sera cette personne âgée en fin de vie à qui l'IA pourra juger plus rationnel de ne pas proposer cette thérapeutique très coûteuse parce que le budget pourrait être mieux réalloué pour le plus grand nombre. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? C'est une question éthique, et c'est pour ça qu'il faut piloter le déploiement de l'intelligence artificielle autour d'un certain nombre de principes de régulation éthique pour préserver ce qui fait la force de la médecine française, c'est-à-dire l'intérêt du colloque singulier entre le médecin et son patient, l'intérêt de la prise en compte des personnes.
La consultation qui prime sur tout le reste. Hein. Vous restez avec nous, David Gruzon, Jean-Patrice Glafkides. D'ailleurs, vous n'hésitez pas à intervenir dans la suite du débat, puisqu'on va maintenant donner la parole à 2 jeunes entrepreneurs qui sont toujours avec nous, puisqu'on est au cœur de ce pavillon Africa Tech, porte 2, Versailles Salon Vivatech.
RFI à Paris, 89 FM. RFI à Cotonou, 90 FM. RFI à Dakar, 92 FM.
Alors, point commun à vos 2 projets, à améliorer le sort des patients, l'accès au système de soins, qualité du parcours médical, avec 2 axes différents, mais tous les 2, bien sûr, hein, puisqu'on est à Vivatech, basé sur les nouvelles technologies. Bola Bardet, tout à l'heure, je disais très rapidement le nom de votre entreprise au Bénin. Soussou, ça signifie ?
Soussou, ça signifie solidarité dans
service de santé.
Alors, Soussou est né d'une histoire personnelle. Je suis d'origine béninoise. Je fais partie de ce qu'on appelle la diaspora africaine, donc les Africains vivant loin de chez eux. Et j'ai connu un drame familial il y a quelques années dû au problème d'accès aux soins de santé de qualité en Afrique. Et c'est comme ça que l'idée de Soussou est née, en me rendant compte que, comme moi, beaucoup de personnes de la diaspora qui essayent, en envoyant de l'argent régulièrement, parfois tous les mois à leur famille, et beaucoup d'argent, essaient de prendre soin des frais de santé de leur famille, mais qui n'y arrivent pas parce que l'argent envoyé ne se traduit pas nécessairement en soins de santé de qualité pour leur famille. Donc Soussou est né de ce constat, et du coup ce qu'on propose, c'est un service de santé qui permet à la diaspora africaine d'offrir quelque part à leur famille en Afrique la meilleure qualité de soins.
Alors pour bien comprendre, c'est pas un transfert d'argent simple, mais c'est le transfert d'une enveloppe pour couvrir des soins de santé. Est-ce que vous choisissez aussi l'établissement de santé où ces frais seront dépensés ?
Tout à fait. Donc on offre un réseau de médecins à nos bénéficiaires qui est quelque part la garantie de qualité qu'on offre aux personnes. Parce que l'idée, c'est qu'ils n'aillent pas chez des personnes, chez des charlatans qui ne sont pas forcément des médecins qualifiés. Et c'est pour ça qu'on apporte la garantie aux personnes de la diaspora qu'ils peuvent être tranquillisés, qu'ils peuvent dormir tranquilles parce que leurs parents, leurs familles sont entre de bonnes mains.
Vous êtes déjà en activité ou c'est encore à l'état de projet ?
Alors on est en état pilote aujourd'hui, en cours de lancement pour le Bénin et la Côte d'Ivoire, et on prévoit un lancement à plus grande échelle à partir du mois d'août 2018.
Alors je me tourne vers notre autre start-upper, en français dans le texte, Joseph Kenom. Alors Aeon, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Cette fois-ci, je l'ai bien dit.
Oui.
Ce qui signifie ?
Ça veut dire allons ensemble dans une langue locale, le CRR.
Alors en CRR, alors comment vous avez lancé votre projet de votre côté ?
Alors moi personnellement je travaille depuis 10 ans dans une structure privée, dans une clinique privée de la place. Les problématiques je les connais, notamment ça a commencé par la facturation hein, parce que je suis comptable de formation. On avait d'énormes problématiques avec les systèmes d'information que nous avions, que j'ai trouvé sur place. Et donc j'ai deux amis qui ont vécu ici en France, donc qui sont développeurs. Et à trois, nous avons décidé de sortir Ion. Parce que moi, je suis tombé sur un cas hein, personnel, une dame qui est arrivée à la 37e semaine, elle était en train de saigner.
Voilà. Elle était en grossesse.
Voilà, donc elle a essayé de joindre son gynéco, il était en voyage, donc impossible. Donc elle s'est dirigée vers la structure de santé la plus proche. Malheureusement, la dame a oublié son carnet. Donc arrivée, c'était un peu compliqué la prise en charge. On ne sait pas ce qui s'est passé durant toute sa grossesse. Et donc il fallait passer un questionnement, etc. Donc c'est après investigation qu'on a vu que la dame, déjà, on lui avait fait un cerclage à 6 mois, qu'elle était hyper tendue, voilà, elle était diabétique. Donc tout ça, en fait, il y a eu une perte de temps.
Perte de temps.
Voilà, donc je me suis dit, pourquoi ne pas mettre en place un dossier médical, digital, donc qui permet aujourd'hui aux médecins qui reçoivent d'avoir tout de suite les informations et de prendre tout de suite en charge la patiente.
Mais
et
ça veut dire que la structure de soins doit être équipée pour recevoir ce dossier médical ou c'est accessible sur un smartphone, sur n'importe quel terminal informatique ?
Alors, le projet, il y a deux produits dans le projet. Donc un système médical d'information, donc destiné aux professionnels de santé, aux médecins, etc. Donc qui leur permet déjà de digitaliser leur métier, mais de dématérialiser le dossier médical du patient. Donc il est interconnecté à nous ce que nous appelons le passeport médical, un assistant digital destiné aux particuliers, qui lui permet d'avoir son dossier médical où qu'il soit dans le monde, mais de bénéficier de services complémentaires tels que prendre un rendez-vous géolocalisé, un médecin, une pharmacie, être connecté à son entreprise d'assurance. Donc là, récemment, donc, nous avons lancé un module de suivi de femmes enceintes, donc qui ressort directement à la date d'accouchement le suivi du carnet de vaccination de l'enfant. Et il y a une semaine, donc, on a lancé les maladies chroniques et là nous avons commencé par l'insuffisance rénale.
Ça ressemble un petit peu au dossier médical partagé hein, qui a été lancé il y a quelques mois en France, qui connaît déjà un beau succès, environ 13% des assurés français qui se sont inscrits, mais avec des services connexes directement adaptés au contexte local. Est-ce que c'est y compris adapté en termes de langue locale ? C'est toujours un élément essentiel, hein, même si à la faculté de médecine on enseigne en français, c'est toujours compliqué de faire accéder ce savoir médical dans les langues locales.
C'est obligatoire, hein, c'est obligatoire, parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup d'ethnies au Sénégal et au Mali, et il arrive hein, que certaines ethnies refusent de parler la langue d'autres ethnies, ou bien qui n'ont jamais fait l'école. Donc nous, en tout cas, dans le système d'information, donc nous avons pensé tout ce qui est application. Donc ça, c'est pour les gens qui sont assez tech. Et pour les gens qui ne sont pas tech ou bien qui n'ont pas accès à l'Internet, donc on a pensé à rajouter l'USSD. Donc c'est facile à utiliser, dièse 1, 2, 3, dièse. Tout le monde sait le faire avec Orange Money, par exemple, au pays. Et donc c'est vraiment, on essaie en tout cas de toucher.
Votre préoccupation, c'est une adaptation maximum au contexte.
Voilà, et là nous sommes en train d'étudier en tout cas la possibilité de créer, en tout cas de mettre en place en langue locale, donc les rappels de vaccination, les conseils, etc.
Joseph Kenom, quel est le coût pour avoir son historique médical ? médical digitalisé.
Pour le patient.
Pour le patient.
Alors, 10 000 francs CFA, donc ça fait à peu près 15 euros l'année.
15 euros l'année, c'est une sorte d'abonnement, de droit d'entrée, et après il va y avoir d'autres frais éventuels.
Oui, pour les modules, parce que le suivi de la femme enceinte, ça c'est un module. L'insuffisance rénale et les autres maladies chroniques, ce sont des modules, mais qui vont coûter entre 1 500 et 2 000 francs.
Un peu comme des services d'assurance, où on a une entrée ophtalmo, une entrée dentaire en France, ça peut se comprendre. Paraît un petit peu à ça selon les spécialités vers lesquelles on veut aller.
C'est ça.
Alors Bola Bardet, hein, important, moi je parle toujours d'argent aussi quand on parle de santé en Afrique, puisque il n'y a pas de couverture santé universelle et que les gens doivent pour beaucoup de maladies donner de leur poche et c'est pas toujours évident. Votre plateforme numérique Soussou, forcément un coût. Bon, l'avantage c'est la garantie de voir l'argent envoyé directement investi dans la santé, mais ça coûte combien pour ceux qui justement prennent votre service ?
Tout à fait. Alors on offre trois niveaux de package. Le premier package qui s'appelle Soussou Prime, un package de prise en charge des maladies chroniques. Donc on a un papa, une maman diabétique. Donc c'est un package qui inclut des visites de médecins, d'infirmières à domicile. On donne aussi des appareils connectés, des glucomètres connectés aux patients pour pouvoir capturer et monitorer leurs données de santé au fur et à mesure et s'assurer que la maladie ne s'aggrave pas. On a également des services de prévention qu'on offre. Donc ce package qui s'appelle Soussou Prime, un package à 35 euros.
Et vous avez des connexions avec les autorités officielles de santé, avec le ministère de la Santé, avec les services publics, ou vous êtes complètement privé, indépendant ?
Pour l'instant, on est privé, mais on recherche évidemment des partenariats aussi bien dans le domaine public que dans le secteur privé.
Alors on arrive à la conclusion de l'émission. Tout à l'heure, on parlait justement de la potentialité de cet outil numérique, de ce savoir-faire numérique pour les systèmes de santé du Sud. Malgré tout, on perçoit bien avec cet échange le fossé immense dans cet accès. Est-ce que malgré tout, sans se projeter, puisqu'on a parlé du présent, on peut aussi s'imaginer dans l'avenir, David Gruson, justement, d'apporter cette expertise transfrontalière, puisque c'est dématérialisé, mais on voit malgré tout que l'humain reste au cœur de la problématique.
Clairement, c'est la valeur centrale, garder cet humain dans la révolution technologique. Et vous voyez bien que ces usages, tels qu'ils ont été décrits dans ces deux projets, sont aussi des usages qui pourraient être tout à fait utiles dans certains territoires en France. Donc on a à apprendre ensemble, Nord-Sud, sur cette révolution technologique et sur cette diffusion de l'intelligence artificielle en santé.
Parce que peut-être que dans certaines régions, on a plus de facilité à reconnaître ses propres carences. Aujourd'hui en France, il y a certains services, on peut dire, qui s'abîment, qui se détériorent. Et on n'a pas toujours la possibilité de mettre des mots sur ce qui se passe.
Oui, et parce qu'en Afrique, peut-être, les usages du numérique sont plus agiles. Vous allez directement à certains objectifs sans passer par toutes les étapes intermédiaires que nous avons connues dans notre système. Donc on a aussi à apprendre de vous et sans doute l'expertise de la médecine française peut aussi servir pour apporter cette garantie humaine du déploiement de la médecine algorithmique en Afrique.
Et bien c'est le sens de notre présence aussi aujourd'hui dans ce pavillon Africa Tech. Notre émission touche à sa fin. Merci à vous quatre d'avoir répondu présent, d'être venu ici, porte de Versailles, à notre rencontre. David Gruson, le titre de votre livre, La machine, le médecin et moi, publié aux éditions de l'Observatoire. Jean-Patrice Glavky, co-fondateur de Data Valoris, Bola Bardet, PDG de la plateforme d'assurance maladie par abonnement Soussou, Joseph Kenom, gérant d'Eion Sénégal. Merci à toute l'équipe qui était là pour notre émission, à Sétou Samaké, Ophélie Lassène, Didier Bleu, Marc Fichet et Bertrand Éclair qui étaient avec nous à la technique. Demain, on va parler l'épidémie de maladie à virus Ebola dans l'Est de la République démocratique du Congo. Où en est la riposte ? Où en est la riposte ? On se retrouve demain pour en parler. Appelez-nous 33 84 22 75 75.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Comme les transporteurs professionnels, profitez d'une assurance dans plus de 14 pays pour l'acheminement de vos marchandises. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.